20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. C'est un défi un peu fou que François-Frédéric Guy s'est lancé pour célébrer l'année Beethoven. Jouer les 5 concertos pour piano en une seule soirée. Ce sera samedi au Théâtre des Champs-Élysées et il sera avec nous pour en parler tout à l'heure. Et puis comme tous les jeudis, nous nous évaderons hors de nos frontières avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui cette semaine a choisi de nous emmener en Écosse. Mais pour commencer, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Gustavo Dudamel vient d'être prolongé à la tête du Philharmonique de Los Angeles, et cela jusqu'en 2026. Je suis très impatient et rempli d'énergie alors que nous ouvrons le prochain chapitre de notre partenariat artistique et je remercie le conseil d'administration pour sa confiance continue dans ma vision de l'orchestre, a déclaré le charismatique chef vénézuélien dont l'une des vocations à Los Angeles est de rassembler les cultures, d'unir l'âme des Amériques, pour reprendre ses propres mots. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Et au Théâtre de Caen, c'est la musique anglaise du XVIIe siècle qui sera à l'honneur samedi soir, celle de Matthew Locke, dont Sébastien Dossé dirigera Psyché, une œuvre rare mêlant musique et théâtre, appartenant ainsi au genre du semi-opéra anglais. Sébastien Dossé sera à la tête de son ensemble Correspondance et d'un beau plateau de solistes, parmi lesquels Étienne Bazola, Marc Moyon ou encore Lucille Richardot, avec laquelle Sébastien Dossé nous avait offert ce merveilleux album de musique anglaise. Go happy man like the evening star, whose beams to bridegrooms welcome are. May neither hand nor feet with the sand, the power of thy victorious hand, dim tongued might surrender now thy virtue. The enchanted knights surrender now thy virtue, thy raised bow. Away enchantments vanish quite, no more delay or longing sight. 'Tis fruitless to contend with fate, who gives us power against your hate. Brave knight in courtly form appear, for now I know long looked for here. Brave knight in courtly form appear, for now I know long looked for here. Go happy man, un air de John Coprario chanté par Lucille Richardot avec Sébastien Dossé et son ensemble Correspondance. Ils redonneront vie samedi soir au Théâtre de Caen à un semi-opéra de Matthew Locke.
Laure Maison sur Radio Classique.
François-Frédéric Guy est donc notre invité ce soir. François-Frédéric Guy, dont on connaît et apprécie l'engagement beethovenien et qui, tout naturellement, ne manquera pas de célébrer son compositeur fétiche cette année. Et il commence fort avec un grand rendez-vous samedi soir au Théâtre des Champs-Élysées autour des 5 concertos pour piano ainsi qu'une nouvelle intégrale au disque de ces concertos. Car Beethoven est, depuis toujours, l'un des grands compagnons de vie du musicien, comme il nous le raconte encore ce soir.
C'est tout un univers qui m'est proche, un grand livre de chevet que de temps en temps on feuillette, on tourne ces grandes pages avec bonheur, délectation, et puis c'est tellement varié. Voilà, on passe d'une œuvre à l'autre, c'est un petit peu, voilà, c'est des chapitres de musique.
Que vous feuilletez sans arrêt, vous ne l'avez jamais
relâche.
Délaissé, Beethoven.
Non, et puis c'est vrai que quand on commence à entrer vraiment dans son univers, c'est un petit peu comme une drogue, mais je pense que c'est la même chose pour chacun des compositeurs, pour un artiste. C'est une drogue et c'est vrai que je suis devenu très addict. Et voilà.
«
On écoutait le rondo final du troisième concerto de Beethoven. C'est un extrait d'une nouvelle intégrale qui vient de paraître. 10 ans après votre première intégrale des concertos de Beethoven, François-Frédéric Guy. Ici, vous êtes au piano et à la tête du Symphonia Varsovia, donc c'est vous qui dirigez du piano.
Absolument.
Est-ce que cela change profondément votre rapport à ces concertos, le fait de ne pas avoir de chef ?
C'était une expérience que j'avais envie de tenter depuis très longtemps. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais ce qu'on appelle classiquement maintenant du jouer dirigé, comme le faisaient Mozart et Beethoven quand ils ont créé leur propre concerto. Il n'y avait pas de chef. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle le Kapellmeister, le premier violon, qui donne l'impulsion aussi à l'orchestre quand nous, on est trop occupés. Mais toute la conception musicale, de la première à la dernière note, revient au pianiste chef. Bien sûr, la confrontation avec un chef, et quand je dis confrontation, il y a aussi le côté évidemment extrêmement positif et très importante, peut provoquer une stimulation musicale incroyable, mais le fait aussi de concevoir l'ensemble, j'allais dire, de l'œuvre et non pas simplement se consacrer à la partie soliste, provoque aussi cette stimulation, cette émulation, et puis redéfinit les cartes dans le rapport du soliste et de l'orchestre. C'est en même temps un concerto, c'est en même temps une symphonie, puisqu'on dirige, tous les toti sont dirigés. En même temps, c'est de la musique de chambre.
Oui, c'est ça.
Et donc, il y a les trois aspects. C'est un petit peu comme si on organisait une grande famille. Le piano est au centre de l'orchestre, dos au public, quand je les joue en concert. Caché par le couvercle du piano, ce n'est jamais très agréable pour lui. Et quelquefois, il nous le fait bien sentir, d'ailleurs. Là, c'est une autre expérience, mais c'est extrêmement enrichissant. Et je pense que pour le public, c'est très spectaculaire aussi.
C'était aussi évident de diriger du piano les premiers concertos que les quatrièmes et cinquièmes ?
Alors, on se pose toujours la question, est-ce que plus l'orchestre est, j'allais dire, fourni, plus c'est difficile aussi, plus le matériau est complexe. En fait, je ne vois pas vraiment de différence, de difficulté particulière à partir du moment où c'est des concertos qu'on a beaucoup pratiqués pour les faire en jouer, diriger de manière détendue, si j'ose dire, libre. Parce qu'évidemment, le geste du chef d'orchestre et le geste du pianiste sont antinomiques. Souvent, le chef d'orchestre dirige vers le haut et donne une impulsion pour entraîner l'orchestre, alors que le pianiste, il y a cette verticalité qu'on essaye d'ailleurs de gommer un peu avec... sinon, on entendrait un petit peu ces marteaux qui nous traumatisent un peu depuis qu'on est jeune. Mais c'est vrai que c'est deux gestes antinomiques et c'est ça qui est difficile. Donc il faut vraiment posséder la partie de piano, je dirais, de manière vraiment presque automatique pour que l'instrument piano soit un instrument, j'allais dire, parmi d'autres. On a tellement de choses à faire autour.
Voilà, une expérience que vous allez renouveler, François-Frédéric Guy, en concert. Ce sera samedi au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris, que vous avez souvent dirigé du piano. Mais alors, vous allez jouer les 5 concertos en une seule soirée, ce qui paraît complètement fou.
Un peu une folie, mais voilà, l'année, ce 250e anniversaire, c'est peut-être l'occasion justement de faire des choses un petit peu hors normes.
Ce qui convient bien à l'esprit de Beethoven, cette folie.
Il y avait cette folie, c'est ce que je dis souvent, il y a une folie dans Beethoven, cette folie de changer le monde, changer le piano, changer l'orchestre, changer les formes classiques qu'il avait parfaitement assimilées. Et donc voilà, proposer au public les 5 concertos dans une soirée, c'est aussi l'emmener dans un voyage extraordinaire. C'est du cinémascope, c'est le grand large, c'est le grand écran là. Et puis voir cette incroyable progression de l'œuvre de Beethoven, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais de redites. Et les premiers concertos sont aussi extraordinaires que les derniers, simplement ils ne sont pas écrits à la même époque. Et donc, Beethoven n'avait pas peut-être encore cette faculté de bouleverser le monde quand il a écrit les premiers concertos. Mais déjà, il prend le pouvoir en disant à Mozart et à Haydn en regardant d'un coin de l'œil, maintenant c'est moi qui suis aux commandes. Et il nous le montre vraiment bien.
Et d'ailleurs, vous allez les jouer dans l'ordre chronologique. Cela commencera à 19h avec le premier concerto. Le cinquième, le dernier du cycle, vous le jouerez aux alentours de 22h35. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le papier.
Oui.
Comment se prépare-t-on à une telle soirée ? Puisque jouer les 5 concertos physiquement, mentalement, c'est un sacré défi.
Oui, c'est difficile. Paradoxalement, je pense que les diriger du piano, même si ça ajoute encore une difficulté intellectuelle, ça m'aide d'être complètement immergé, ne pas simplement attendre, jouer, mais être complètement de la première à la dernière note.
C'est une espèce d'élan.
Exactement. C'est l'élan musical. Je sais que quand je vais commencer à 19h30, voilà, j'ai un objectif. 19h, oui, pardon, je dis des bêtises. Mais, oui, 19h30, on sera déjà presque à la fin du premier concerto. Oui, j'ai un objectif musical et voilà, ça m'aide beaucoup. Que ça soit vraiment l'ensemble des œuvres et non pas simplement, voilà, comme on disait tout à l'heure, la partie soliste. Et puis j'ajoute qu'on a déjà fait ce voyage intégral avec l'Orchestre de Chambre de Paris il y a quelques années au Festival Berlioz à l'invitation de Bruno Messina. Et donc ça sera la seconde fois avec l'Orchestre de Chambre de Paris et je me réjouis énormément. Mais c'est vrai que ça reste un défi, ça, c'est indiscutable. Mais qu'il est beau!
Outre les 5 concertos pour piano de Beethoven que vous jouerez en une seule soirée samedi soir au Théâtre des Champs-Élysées, vous jouerez également les sonates pour piano seul de Beethoven, François-Frédéric Guy. On vous écoutait à l'instant dans un petit extrait de la Hammerklavier. Alors j'ai choisi la Hammerklavier, c'est l'une des sonates que vous jouerez cette année Beethoven. Vous les jouerez toutes d'ailleurs, les sonates. Est-ce que la Hammerklavier représente a une signification particulière pour vous? Il me semble en tout cas.
Oui, absolument. Alors, je voudrais juste dire une chose, je ne jouerai pas toutes les sonates à Radio France au fameux week-end du 20 mars, mais on a eu une idée encore plus extraordinaire, c'est que je parraine une intégrale avec 8 jeunes pianistes autour de moi, de la nouvelle génération, qui sont tous formidables, je ne vais pas les citer tous, mais Alexandre Kantorov, Issaël Marguin, Céline Mazari, Nathalie Hamilstein, Maroussia Janté, Jean-Paul Gasparian. J'ai eu l'idée de les réunir autour de moi et qu'on partage ces sonates. Alors j'ouvrirai le week-end et je terminerai. Et les jeunes pianistes se répartiront toutes les autres sonates. Et pour revenir à la Hammerklavier, justement, oui, effectivement, c'est une de mes sonates emblématiques. Je l'ai enregistrée 3 fois, je l'ai jouée plus d'une centaine de fois en concert. Elle reste quand même un défi au-delà de toutes les œuvres que j'ai pu jouer en public. D'abord par sa dimension, son propos, sa difficulté, la difficulté aussi du public, quelquefois, à la percevoir tellement elle était en avance sur son temps, et encore maintenant, avec cette folie beethovenienne dans la durée, dans l'expression, dans la brutalité, quelquefois. Non, j'aime beaucoup cette sonate, je trouve que c'est peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature pianistique et de toute la littérature de musique d'ailleurs. Et donc je la jouerai lors du premier concert, et dans ce concert je jouerai la première des sonates, l'opus 2 numéro 1, que j'aime particulièrement, qui est pétillante, une sorte de Haydn survitaminé. Et puis dans mon deuxième concert qui clôturera ce week-end, je jouerai la dernière sonate, l'opus 111. Et donc ça sera vraiment une belle fête, un beau week-end original avec plusieurs récitals, tous ces jeunes pianistes. Il y a une génération, je le tiens toujours à le dire dans les interviews, mais une génération de pianistes en France là absolument exceptionnelle, c'est vraiment formidable.
Et l'un d'entre eux, Selim Mazari, était à notre micro.
Ah oui, Selim, beaucoup, beethovenien incroyable.
Voilà. Alors Beethoven, vous le jouez depuis des années, on a l'impression que la musique de Beethoven est imprégnée en vous, François-Frédéric Guy, mais est-ce qu'il vous trouble toujours autant? Est-ce qu'il vous questionne toujours autant? On n'a jamais fini de faire le tour d'un compositeur comme Beethoven. Musique vous questionne toujours?
Bien sûr, elle me questionne, c'est pour ça aussi que j'ai réenregistré les 5 concertos 10 ans après mon intégrale avec le Philharmonique de Radio France et Philippe Jordan, pour parler des concertos, déjà. On n'a jamais fait le tour. C'est pas simplement jouer ou même les diriger, c'est être restimulé par cette incroyable vivacité, cette humanité. Il parle de nous, notre grandeur, nos vicissitudes, notre petitesse, tous nos sentiments. Et il est le premier en ça, le premier des romantiques. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui touche les gens, ce qui me touche. Et c'est pour ça que ça me questionne toujours, pour revenir à votre question. On n'a jamais fini. Justement, on affine, on transmet mieux, on traduit mieux pour le public aussi. Car c'est un petit peu, notre rôle, c'était un petit peu un rôle de traducteur, je dirais.
Vous en êtes un traducteur de Beethoven, François-Frédéric Guy, mais vous le transmettez aussi. Vous parliez de cette jeune génération de pianistes avec laquelle vous partagerez cette intégrale au mois de mars à l'auditorium de Radio France. Vous donnerez également des masterclass durant cette année Beethoven. Transmettre Beethoven, c'est aussi un besoin pour vous aujourd'hui.
Oui, et on pourrait ajouter aussi, quand je fais du jouer dirigé, c'est un petit peu aussi de la transmission. Oui. Pour en revenir aux masterclass, effectivement, à Villecroze, début mars, il y aura des masterclass dédiées à l'œuvre de Beethoven, pour montrer justement à tous ces étudiants, essayer de leur montrer un petit peu le chemin, comme moi j'ai eu la chance de bénéficier quand j'étais plus jeune des conseils du fils d'Arthur Schnabel, Karl-Ulrich Schnabel, je me souviens, qui maintenant est décédé, et qui me faisait travailler sur les partitions de son père, à noter. Alors évidemment il y avait cette transmission directe, sans parler même de Léon Fleischer, donc pour moi, par exemple, l'intégrale des 5 concertos reste la référence absolue. Et voilà, à mon tour maintenant de retransmettre ce que j'ai eu la chance de recevoir quand je n'étais qu'à, je le dis avec une immense immodestie parce que c'est tellement drôle, mais quand je n'étais qu'à 5 poignées de main de Ludwig van Beethoven.
Voilà, puis en tout cas, on se réjouit de vous entendre en cette année à Beethoven, François-Frédéric Guy. Donc, je rappelle ce rendez-vous du 18 janvier, donc de samedi soir, au Théâtre des Champs-Élysées, avec les 5 concertos que vous jouerez et dirigerez avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Un rendez-vous le 22 janvier également à l'Arsenal de Metz avec le Symphonia Varsovia. Puis vous participerez à la folle journée de Nantes et en région. Bien des rendez-vous à venir tout au long de cette saison. Vous jouerez également les sonates pour violon et piano avec Teddy Papavrani. Cette saison.
L'intégrale des trios aussi à l'Arsenal de Metz avec Xavier Philips et Teddy Papavrani.
Les deux complices.
Oui, exactement, de toujours. Donc ça sera vraiment c'est vraiment la fête cette année.
Voilà, puis un rendez-vous à la télévision sur Arte dans le cadre de l'émission Invitation au voyage le 29 janvier. On pourra vous retrouver à Vienne sur les traces de Beethoven.
Oui, je voulais juste en dire un petit mot. Nous avons filmé cette invitation au voyage, qui est en fait, nous avons une discussion à propos de Beethoven au Palais Lobkowitz de Vienne, là où a été créée la Symphonie Héroïque, un endroit absolument sublime, en plein centre du cœur historique de Vienne. Mais c'est vrai que dans un endroit où on a peine à imaginer qu'on ait pu créer une symphonie, et encore moins l'héroïque, car c'est une petite salle, certes magnifique. Alors évidemment, l'héroïque, je le précise pour nos auditeurs, a été créée avec 17 instruments, ce qui laisse aussi Pantois.
Voilà, c'est au palais Lobkowitz de Vienne.
Vous savez qu'il a failli être belge.
Non.
Vous savez que Beethoven a failli être belge. Et donc le cours de l'histoire a été changé. Mais oui, parce que son père a été, je le raconte pour nos auditeurs, mais son père a été nommé au dernier moment, je ne sais plus quel métier il faisait, à Bonn. Et c'est pour ça que le petit Beethoven est né à Bonn. Mais normalement, ils habitaient à Liège. Et donc, si la vie de son père n'avait pas changé de manière brutale, il serait né à Liège. Mais ça aurait eu des conséquences incalculables, parce que peut-être que son centre musical après aurait été Paris.
Oui.
Et non pas Vienne. Et donc, vous imaginez, il aurait été quasiment parisien. Il aurait peut-être été très français. Enfin, Beethoven aurait été appelé Louis de Beethoven. Et ça aurait été incroyable.
Et oui, mais
belle
il est...
histoire.
Voilà.
Mais finalement, voilà, il est né à Bonn et son centre a été quand même musical, a été Vienne.
Oui, et qui lui a permis de s'épanouir. Et...
Exactement.
Beethoven, que vous célébrerez largement en cette année 2020. Je rappelle la sortie de votre nouvelle intégrale des concertos avec le Symphonia Varsovia. Merci beaucoup François-Frédéric Guy d'être passé nous voir.
Merci Laure.
Les dernières notes du 5e concerto de Beethoven dans le nouvel enregistrement de François-Frédéric Guy avec le Symphonia Varsovia. François-Frédéric Guy qui jouera donc les 5 concertos samedi soir avec l'Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des Champs-Élysées, l'un des moments forts de cette année Beethoven qui ne fait que commencer.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors cette semaine, vous nous emmenez à Édimbourg.
Oui, Édimbourg, une ville absolument merveilleuse qui ne figure pas si souvent à la une de l'actualité musicale évoquée en France, à l'exception évidemment de l'été avec cet incroyable festival, un des plus grands au monde, qui propose à la fois du théâtre, de la musique, des performances en tout genre, bien sûr dans les salles de spectacle de la ville, mais aussi dans les rues, sur les places. Enfin, la ville devient elle-même un festival. Édimbourg, c'est une ville très singulière, cultivée, à la fois élégante et décontractée, un peu à l'image de l'Écosse, et elle mérite qu'on y aille, même en cette saison. Bon, il faut mettre quelques pulls, bottes et autres parapluies, mais il faut le faire aussi chez nous, avant de partir. Et en l'occurrence, de partir pour le Queen's Hall, qui est une des salles de la ville d'Édimbourg et qui est le lieu de résidence du Scottish Chamber Orchestra. C'est une salle qui, initialement, était une chapelle. On peut d'ailleurs encore le deviner de l'extérieur, parce qu'on voit bien la structure ecclésiale, qui a été inaugurée en 1823. Et puis, elle a eu beaucoup de transformations. On dit toujours la même chose avec les salles, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Et son aspect actuel, elle l'a trouvé en 1979, la soirée d'ouverture ayant d'ailleurs été présidée par... présidée, on ne dit pas ça pour une reine, mais enfin honorée de la présence de la reine Elisabeth II. Elle peut accueillir à peu près 1000 spectateurs, cette salle, et elle a une palette très colorée à l'intérieur. Les boiseries sont bleues, crème et or, il y a des sièges d'un beau rouge. Donc elle est très très joyeuse, très festive, et il fait bon y prendre place même avant que le concert ne commence. Elle fait la part belle au répertoire classique, mais avec cette facilité, cette décontraction britannique à décloisonner les genres musicaux, on peut y admirer et y applaudir aussi des artistes de jazz, de musique traditionnelle et même de rock et de pop. Alors, actuellement, donc une fois qu'on se sera bien équipé, on peut partir pour Édimbourg et on va y entendre un chef qu'on aime beaucoup aussi en France, qu'on entend régulièrement, Maxime Emelianichev, qui là va diriger donc le Scottish Chamber Orchestra dans un programme consacré à la danse, des danses venues de terres germaniques avec Telemann et Bach, mais aussi un hommage à la danse telle que les grands compositeurs français du baroque et du début du classique l'ont mise en musique avec du Lully et du Rameau. Alors, permettez-moi peut-être un petit focus sur la suite Alster de Telemann, qui a été inspirée au compositeur par un lac, le lac Alster, d'où son nom, dans les environs de Hambourg. Et selon les règles très en vogue à l'époque baroque, de l'imitation, eh bien la partition fait entendre des bruits de la nature, des oiseaux, des grenouilles aussi, et puis aussi quelques réjouissances paysannes, et même un peu perturbateurs, mais perturbés de manière très savante, des coups de canon qui arrivent dans la partition. Le chef et claveciniste proposera aussi au public d'Édimbourg donc un voyage en France, le bourgeois gentilhomme de Lully et la suite des Indes galantes de Rameau, vraiment une œuvre très honorée actuellement. Et puis si l'on reste quelques jours là-bas, eh bien on pourra s'attarder aussi dans une autre salle, le Usher Hall, où le 26 janvier, le même Scottish Chamber Orchestra, mais sous la direction de François Leleu cette fois-ci, donnera un très beau programme, lui totalement 19e, avec le premier concerto pour piano de Brahms, Javier Perianès au clavier, pas mal, et puis la 7e symphonie de Dvorak. Donc voilà, on file à Édimbourg.
À Édimbourg, tout absolument. À fait, on y va ensemble.
On y va, avec joie.
Le début du deuxième mouvement de la 9e symphonie, la Grande de Franz Schubert, par l'Orchestre de Chambre d'Écosse, dirigé par Maxime Emelianichev. Merci beaucoup,
merci
Emmanuel,
Laure,
pour ce petit voyage en Écosse. Merci à Laetitia Montanari qui a réalisé cette émission. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Vanessa Benelli-Moselle. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.